Lorsque Voltaire écrit à Rousseau, il prend une envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. C'est extrêmement drôle et c'est très important parce que c'est Voltaire qui le dit.
Sacha Guitry.
Mais si c'est vous ou moi, c'est bien moins important et c'est beaucoup moins drôle. C'est pourquoi j'ai toujours détesté la critique.
Ça peut pas faire de mal.
La plus belle gifle qu'elle ait reçue lui a été donnée par Eugène Delacroix. La veille d'un vernissage, il accrochait une toile de lui. Un critique passe, qui lui dit « Voilà un chef-d'œuvre » et Delacroix lui répond « Qu'est-ce que vous en savez ?» Il ne voulait même pas lui reconnaître le droit de s'y connaître. Et il avait raison. Il ne faut avoir aucune pitié pour ces gens-là.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Molière est bien heureux, monsieur, d'avoir un protecteur aussi chaud que vous. Mais enfin, pour venir au fait, il est question de savoir si sa pièce est bonne. Et je m'offre d'y montrer partout, sans défaut visible.
C'est une étrange chose de vous autres, messieurs les poètes, que vous condamniez toujours les pièces où tout le monde court et ne disiez jamais du bien que de celles où personne ne va. Vous montrez pour les unes une haine invincible et pour les autres une tendresse qui n'est pas concevable.
C'est qu'il est généreux de se ranger du côté des affligés.
Mais de grâce, monsieur Lysidas, faites-nous voir ces défauts dont je ne me suis point aperçu.
Ceux qui possèdent Aristote et Horace voient d'abord, madame, que cette comédie pêche contre toutes les règles de l'art.
J'ai remarqué une chose de ces messieurs-là, c'est que ceux qui parlent le plus des règles, et qui les savent mieux que les autres, font des comédies que personne ne trouve belles.
Et c'est ce qui marque, madame, comme on doit s'arrêter peu à leurs disputes embarrassées. Car enfin, si les pièces qui sont selon les règles ne plaisent pas, et que celles qui plaisent ne soient pas selon les règles, il faudrait de nécessité que les règles eussent été mal faites. Moquons-nous donc de cette chicane où ils veulent assujettir le goût du public. Et ne consultons dans une comédie que l'effet qu'elle fait sur nous. Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous prennent par les entrailles et ne cherchons point de raisonnement pour nous empêcher d'avoir du plaisir.
Pour moi, quand je vois une comédie, je regarde seulement si les choses me touchent. Et lorsque je m'y suis bien divertie, je ne vais point demander si j'ai eu tort et si les règles d'Aristote me défendaient de rire.
C'est justement comme un homme qui aurait trouvé une sauce excellente et qui voudrait examiner si elle est bonne sur les préceptes du cuisinier français.
Il est vrai. Et j'admire les raffinements de certaines gens sur des choses que nous devons sentir par nous-mêmes.
Vous avez raison, madame, de les trouver étranges, tous ces raffinements mystérieux. Car enfin, s'ils ont lieu, nous voilà réduits à ne nous plus croire. Nos propres sens seront esclaves en toute chose, et jusqu'au manger et au boire, nous n'oserons plus trouver rien de bon sans le congé de messieurs les experts. Enfin, monsieur, toute votre raison, c'est que l'école des femmes a plu. Et vous ne vous souciez point qu'elle ne soit pas dans les règles, pourvu... Tout beau, monsieur Lysidas, je ne vous accorde pas cela. Je dis bien que le grand art est de plaire, et que cette comédie ayant plu à ceux pour qui elle est faite, je trouve que c'est assez pour elle et qu'elle doit peu se soucier du reste. Mais avec cela, je soutiens qu'elle ne pèche contre aucune règle dont vous parlez. Je les ai lues, Dieu merci, autant qu'un autre, et je ferai voir aisément que peut-être n'avons-nous point de pièces au théâtre plus régulières que celle-là. Molière, la critique de l'école des femmes. Bonjour, bienvenue à Ça peut pas faire de mal. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et plaisir de recevoir Mademoiselle Catherine Fraud. Merci.
Merci Guillaume.
Alors, aujourd'hui, avec Catherine Fraud, on va vous lire des textes sur la critique. Elle est dense, cette critique. Elle est dense depuis très longtemps, depuis que le théâtre existe, depuis que l'art existe, on a envie de le critiquer. Et des gens merveilleux ont écrit sur cette critique, notamment Marcel Pagnol.
On connaît la querelle lucide. On sait comment, sur l'ordre d'un ministre, une sorte de commission supérieure de la critique rédigea un mémoire imbécile à seule fin de décourager Pierre Corneille. Le guet-apens joua trop tard, le Cid était déjà passé. On connaît aussi l'échec de la Phèdre de Racine, écrasée par celle de Pradon. La critique avait organisé le naufrage du chef-d'œuvre. Elle imposa, momentanément, l'œuvre médiocre. Jean Racine, frappé au cœur, renonçait à son art et s'enfermait dans un silence de 12 années. Certes, Phèdre a repris sa place. Mais les avorteurs de cette époque ont certainement empêché de naître les plus belles tragédies de Racine, celles dont les 12 trônes vides ne sont marqués que d'un millésime. Entre Phèdre et Attali, ces deux sommets de l'art dramatique. De tous les exploits de la critique, voilà peut-être le plus remarquable et certainement le plus affreux.
Racine, avant l'échec de Phèdre, fit précéder Bérénice d'une préface polie mais féroce par laquelle il exécuta l'abbé de Villars. Que répondrais-je à un homme qui ne pense rien et qui ne sait pas même construire ce qu'il pense ? Il parle de Protase comme s'il entendait ce mot et veut que cette première des quatre parties de la tragédie soit toujours la plus proche de la catastrophe. Il se plaint que la trop grande connaissance des règles l'empêche de se divertir à la comédie. Certainement, si l'on en juge par sa dissertation, il n'eut jamais de plainte plus mal fondée. Mais je lui pardonne de ne pas savoir les règles du théâtre, puisqu'heureusement pour le public, il ne s'applique pas à ce genre d'écrire. Toutes ces critiques sont le partage de quatre ou cinq auteurs infortunés qui n'ont jamais pu par eux-mêmes exciter la curiosité du public. Ils attendent toujours l'occasion de quelque ouvrage qui réussisse pour l'attaquer. Non point par jalousie, car sur quel fondement seraient-ils jaloux ? Mais dans l'espérance qu'on se donnera la peine de leur répondre et qu'on les tirera de l'obscurité où leurs propres ouvrages les auraient laissés toute leur vie. Maurice Nadeau.
Je crois qu'on pourrait trouver une définition que je vous propose. Devient critique ou n'est critique que celui qui juge.
Georges Bataille.
Je trouve que la brutalité est l'idéal. Une bonne critique devrait fonctionner comme une guillotine et il devrait plutôt en sortir du sang qu'autre chose. Mais en fait, je crois, avec une certaine expérience, que cela n'est pas à la portée des hommes et qu'au fond, ne pouvant pas aller jusqu'au bout et ne pouvant pas tuer les gens que l'on n'aime pas ni vraiment élever au ciel ceux que l'on aime, il n'y a qu'à rester dans une sorte de modestie.
Après Racine, Diderot, des auteurs et des critiques.
Les voyageurs parlent d'une espèce d'homme sauvage qui souffle aux passants des aiguilles empoisonnées. C'est l'image de nos critiques. Cette comparaison vous paraît-elle outrée ? Convenez du moins qu'il ressemble assez à un solitaire qui vivait au fond d'une vallée que des collines environnaient de toutes parts. Cet espace borné était l'univers pour lui. En tournant sur un pied et parcourant d'un coup d'œil son étroit horizon, il s'écriait « Je sais tout, j'ai tout vu !» Mais tenter un jour de se mettre en marche et d'approcher de quelque objet qui se dérobait à sa vue, il grimpe au sommet d'une de ces collines. Quel ne fut pas son étonnement lorsqu'il vit un espace immense se développer au-dessus de sa tête et devant lui. Alors, changeant de discours, il dit « Je ne sais rien, je n'ai rien vu. » J'ai dit que nos critiques ressemblaient à cet homme. Je me suis trompé. Ils restent au fond de leur cahute et ne perdent jamais la haute opinion qu'ils ont d'eux. Le rôle d'un auteur est un rôle assez vain. C'est celui d'un homme qui se croit en état de donner des leçons au public. Et le rôle du critique, il est bien plus vain encore. C'est celui d'un homme qui se croit en état de donner des leçons à celui qui se croit en état d'en donner au public. L'auteur dit « Messieurs, écoutez-moi, car je suis votre maître. » Et le critique « C'est moi, messieurs, qu'il faut écouter, car je suis le maître de vos maîtres. » Pourquoi l'artiste devrait-il être dérangé par la clameur stridente de la critique ? Pourquoi ceux qui ne savent pas créer auraient-ils la prétention de porter un jugement sur la valeur du travail créatif ? Que peuvent-ils en savoir ? Si l'œuvre d'un artiste est facile à comprendre, on n'a pas besoin d'explication.
Et si son œuvre est incompréhensible, une explication est pernicieuse ?
Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Mais c'est justement ce que tu aurais dû dire. Plus on étudie la vie et la littérature, plus on acquiert la conviction que derrière toute création merveilleuse se trouve la personne humaine et que ce n'est pas l'époque qui fait l'homme, mais l'homme qui crée son époque. Une époque qui n'a pas de critique est soit une époque qui voit l'art immobile, stagné, devenir hiératique et se confiner à la reproduction de modèles canoniques, soit une époque qui ne connaît aucune forme d'art. Il y a eu de grandes époques de critique qui n'ont pas correspondu à des époques de création artistique, au sens courant de l'expression, des époques au cours desquelles l'esprit humain a cherché à mettre de l'ordre dans les trésors de ses collections, à séparer l'or de l'argent et l'argent du plomb, à faire l'inventaire de ses joyaux et à nommer ses perles. Mais il n'y a jamais eu de grandes époques de création artistique qui n'aient pas été aussi une grande époque critique. Car c'est la faculté critique qui invente les formes nouvelles. La création tend à se répéter. C'est à l'instinct critique que nous devons l'apparition de toutes les nouvelles écoles, tous les nouveaux moules dans lesquels l'art vient se couler. Mais la critique est sans conteste un art en soi. Et tout comme la création artistique implique l'exercice de la faculté critique, sans laquelle il serait d'ailleurs tout simplement impossible d'affirmer qu'elle existe, ainsi la critique est-elle vraiment créatrice au sens le plus noble du mot? La critique est, en fait, tout à la fois créatrice et indépendante.
Indépendante?
Oui, indépendante. Pas plus que l'œuvre du poète ou du sculpteur, on ne saurait juger la critique selon quelques médiocres critères d'imitation ou de ressemblance. Le critique a le même rapport à l'œuvre d'art qu'il critique que l'artiste au monde visible de la couleur et de la forme ou au monde invisible de la passion et de la pensée. Il n'a même pas besoin pour parfaire son art des matériaux les plus nobles. Le premier venu pourra servir son entreprise. Et, tout comme à partir des amours sentimentales et sordides de la sotte femme d'un petit médecin de campagne, dans le misérable village d'Yonville-l'Abbaye, près de Rouen, Gustave Flaubert a su écrire un classique et produire un chef-d'œuvre de style, de même, à partir de sujets sans grand intérêt ou sans intérêt aucun, comme des tableaux présentés au salon de la Royal Academy de cette année, ou d'ailleurs à n'importe quel salon de la Royal Academy de n'importe quelle année, à partir des poèmes de M. Lewis Morris, des romans de M. Honnett, ou des pièces de M. Henry Arthur Jones, le véritable critique peut, s'il lui plaît d'appliquer ou de gaspiller ainsi sa faculté de contemplation, produire un ouvrage d'une beauté sans défaut et pétri de subtilité intellectuelle. Pourquoi pas ? La sottise est toujours une tentation irrésistible pour le talent éclatant. Et la bêtise est l'éternel bestia triomphant qui fait sortir la sagesse de sa caverne. Ce dialogue entre Ernest et Gilbert était tiré de « Le critique comme artiste » dans « Intention » de Oscar Wilde. La critique, Charles Aznavour.
Ils sont là tranquilles, sans la moindre ville, lorsque l'on panique et que mort de trac, tous nos membres claquent devant le public. Avec un air sombre, ils guettent dans l'ombre, armés d'un stylo. Quoi qu'on dise ou fasse de notre cuirasse, le moindre défaut, de gauche ou de droite, ce que l'on mandate pour faire un papier. Non, je le présume, pas tremper leurs plumes dans un minutier. Et que peut-on faire, pauvre peau de terre, vulnérable et seul, lorsque l'on en crève, rengainer ses rêves et fermer sa gueule. La critique, on a beau dire au fond que l'on s'en contrefout. La critique, vous détruit le moral et vous en fout un coup. Frappé de nécrose en lisant ces proses qui, sauf exception, ressemblent aux surprises à des entreprises de démolition. Si certains paniquent et neurasthéniques consultent des psys, d'autres se libèrent, remuent ciel et terre, et tant Dieu merci. Du genre opiniâtre sont prêts à se battre, et pour être mieux, cherchent un autre style, changent de profil, plantent des cheveux. Ça ne change guère, il reste une guerre de papier journal. Fait de mots qui touchent, là où ça fait mouche, là où ça fait mal. La critique, on a beau dire au fond que l'on grand contre-fou. La critique vous détruit le moral et vous en fout un coup.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Représentant le ministère public, je demande que toute nouvelle publication de ce roman soit interdite et que son auteur, Gustave Flaubert, soit reconnu coupable de deux délits, offense à la morale publique et offense à la morale religieuse. Cet homme, ce Flaubert, a créé un caractère de femme française qui est à la fois un déshonneur pour la France et une insulte envers les femmes. Emma Bovary, une femme qui oublie ses devoirs de mère, qui manque à ses devoirs d'épouse, et qui introduit successivement dans son foyer l'adultère et la ruine. Voilà notre héroïne.
Dans le procès de Flaubert, l'affaire est fixée au 24 janvier, et la veille, Flaubert écrit la lettre suivante.
Je passe demain en police correctionnelle, 6e chambre à 10h du matin. Je m'attends à la condamnation car je ne la mérite pas.
Tiré du texte du verdict du procès de Flaubert, dans ces circonstances, attendu qu'il n'est pas suffisamment établi que Pichat, Flaubert et Pillet se soient rendus coupables des délits qui leur sont imputés, le tribunal les acquitte de la prévention portée contre eux et les renvoie sans dépens.
Puisque j'ai prononcé ce mot splendide et terrible, la justice, qu'il me soit permis, comme aussi bien cela m'est agréable, de remercier la magistrature française de l'éclatant exemple d'impartialité et de bon goût qu'elle a donné dans cette circonstance. Sollicité par un zèle aveugle et trop véhément pour la morale, par un esprit qui se trompait de terrain, placé en face d'un roman, œuvre d'un écrivain inconnu la veille, un roman, et quel roman ? Le plus impartial, le plus loyal ? Un chant banal comme tous les chants, flagellé, trempé, comme la nature elle-même, par tous les vents et tous les orages. La magistrature, dis-je, s'est montrée loyale et impartiale comme le livre qui était poussé devant elle en holocauste. Et mieux encore, disons, s'il est permis de conjecturer, d'après les considérations qui accompagnèrent le jugement, que si les magistrats avaient découvert quelque chose de vraiment reprochable dans le livre, ils l'auraient néanmoins amnistié en faveur et en reconnaissance de la beauté dont il est revêtu. Ce souci remarquable de la beauté en des hommes dont les facultés ne sont mises en réquisition que pour le juste et le vrai est un symptôme des plus touchants. En somme, on peut dire que cet arrêt, par sa haute tendance poétique, fut définitif. Que gain de cause a été donné à la muse et que tous les écrivains, tous ceux du moins dignes de ce nom, ont été acquittés dans la personne de M. Gustave Flaubert. Ne disons donc pas, comme tant d'autres l'affirment avec une légère et inconsciente mauvaise humeur, que le livre a dû son immense faveur au procès et à l'acquittement. Le livre, non tourmenté, aurait obtenu la même curiosité, il aurait créé le même étonnement, la même agitation.
Laissez-moi vous revoir une fois, une seule.
Pas ici, en tout cas.
Où vous voudrez ?
Oh mon Dieu, demain, à 11h, dans la cathédrale ?
Oh, merci, merci. Merci.
Oh, mais vous êtes fou ! Vous êtes fou !
Plusieurs critiques avaient dit « Cette œuvre vraiment belle, par la minutie et la vivacité des descriptions, ne contient pas un seul personnage qui représente la morale, qui parle la conscience de l'auteur. Où est-il le personnage proverbial et légendaire chargé d'expliquer la fable et de diriger l'intelligence du lecteur ? En d'autres termes, où est le réquisitoire ? Absurdité ! Éternelle et incorrigible confusion des fonctions et des genres, une véritable œuvre d'art n'a pas besoin de réquisitoire. La logique de l'œuvre suffit à toutes les postulations de la morale, et c'est au lecteur à tirer les conclusions de la conclusion. Quant au personnage intime, profond de la fable, incontestablement c'est la femme adultère. Elle seule, la victime déshonorée, possède toutes les grâces du héros.
En somme, cette femme est vraiment grande, elle est surtout pitoyable. et malgré la dureté systématique de l'auteur, qui a fait tous ses efforts pour être absent de son œuvre et pour jouer la fonction d'un montreur de marionnettes, toutes les femmes intellectuelles lui sauront gré d'avoir élevé la femelle à une si haute puissance, si loin de l'animal pur, et si près de l'homme idéal, et de l'avoir fait participer à ce double caractère de calcul et de rêverie qui constitue l'être parfait.
Attaqué à son tour par la critique et par la justice, à propos des fleurs du mal, Baudelaire lui-même prépare une note pour son avocat. Il proteste contre le procédé de l'accusation qui, dans l'ensemble de son œuvre, découpe, isole quelques fragments pour les incriminer. C'est dans son ensemble qu'un ouvrage doit être examiné et jugé.
Le livre doit être jugé dans son ensemble, et alors il en ressort une terrible moralité. Donc, je n'ai pas à me louer de cette singulière indulgence qui n'incrimine que 13 morceaux sur 100. Cette indulgence est très funeste. C'est en pensant à ce parfait ensemble de mon livre que je disais à monsieur le juge d'instruction, mon unique tort a été de compter sur l'intelligence universelle et de ne pas faire de préface, où j'aurais posé mes principes littéraires et dégagé la question si importante de la morale.
Il y a plusieurs morales. Il y a la morale positive et pratique à laquelle tout le monde doit obéir, mais il y a la morale des arts. Celle-ci est autre. Et depuis le commencement du monde, les arts l'ont bien prouvé. Il y a aussi plusieurs sortes de libertés. Il y a la liberté pour le génie, et il y a une liberté très restreinte pour les polissons.
Qu'est-ce que c'est que cette morale prude, bégueule, taquine, et qui ne tente à rien moins qu'à créer des conspirateurs, même dans l'ordre si tranquille des rêveurs? Cette morale-là irait jusqu'à dire « Désormais, on ne fera que des livres consolants et servant à démontrer que l'homme est né bon et que tous les hommes sont heureux. » Abominable hypocrisie.
Des suites de ce procès, 6 poèmes des Fleurs du Mal furent censurés et Baudelaire fut condamné à une amende. Baudelaire décide donc d'écrire à l'impératrice Eugénie. Paris, le 6 novembre 1857. Madame, il faut toute la prodigieuse présomption d'un poète pour oser occuper l'attention de votre majesté d'un cas aussi petit que le mien. J'ai eu le malheur d'être condamné pour un recueil de poésie intitulé « Les fleurs du mal ». L'horrible franchise de mon titre ne m'ayant pas suffisamment protégé. J'avais cru faire une belle et grande œuvre, surtout une œuvre claire. Elle a été jugée assez obscure pour que je sois condamné à refaire le livre et à retrancher quelques morceaux, 6 sur 100. Je dois dire que j'ai été traité par la justice avec une courtoisie admirable et que les termes mêmes du jugement impliquent la reconnaissance de mes hautes et pures intentions. Mais l'amende, grossie de frais inintelligibles pour moi, dépasse les facultés de la pauvreté proverbiale des poètes. Et, encouragé par tant de preuves d'estime que j'ai reçues d'amis si haut placés, et en même temps persuadé que le cœur de l'impératrice est ouvert à la pitié pour toutes les tribulations, les spirituelles comme les matérielles, j'ai conçu le projet, après une indécision et une timidité de 10 jours, de solliciter la toute gracieuse bonté de votre majesté et de la prier d'intervenir pour moi auprès de monsieur le ministre de la justice. Daignez, madame, agréer l'hommage des sentiments de profond respect avec lesquels j'ai l'honneur d'être de votre majesté le très dévoué et très obéissant serviteur et sujet. Charles Baudelaire. Et pour la petite anecdote, l'impératrice Eugénie lui paya son amende.
Ça peut pas faire de mal.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Que j'aime avoir, cher indolent, de ton corps si beau, comme une étoile vacillante, miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns. navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer sont deux bijoux froids où se mêlent l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents. Je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur.
Puisqu'on parle de Baudelaire, Baudelaire a été un immense critique. Voici une de ses critiques, peut-être un peu féroce.
De Monsieur Horace Vernet. Tels sont les principes sévères qui conduisent dans la recherche du beau, cet artiste éminemment national, dont les compositions décorent la chaumière du pauvre villageois et la mansarde du joyeux étudiant, le salon des maisons de tolérance les plus misérables et les palais de nos rois. Je sais bien que cet homme est un Français, et qu'un Français en France est une chose sainte et sacrée, et même à l'étranger, à ce qu'on dit, mais c'est pour cela même que je le hais. Dans le sens le plus généralement adopté, français veut dire vaudevilliste. Et vaudevilliste, un homme à qui Michel-Ange donne le vertige et que Delacroix remplit d'une stupeur bestiale, comme le tonnerre certains animaux. Tout ce qui est abîme, soit en haut, soit en bas, le fait fuir prudemment. Le sublime lui fait toujours l'effet d'une émeute, et il n'aborde même son Molière qu'en tremblant, et parce qu'on lui a persuadé que c'était un auteur gai. Aussi, tous les honnêtes gens de France, excepté M. Horace Vernet, haïssent le français. Ce ne sont pas les idées qu'il faut à ce peuple remuant, mais des faits, des récits historiques, des couplets. Et le moniteur, voilà tout, jamais d'abstraction. Il a fait de grandes choses, mais il n'y pensait pas. On les lui a fait faire. Monsieur Horace Vernet est un militaire qui fait de la peinture. Je hais cet art improvisé au roulement du tambour, ces toiles badigeonnées au galop, cette peinture fabriquée à coups de pistolet, comme je hais l'armée, la force armée et tout ce qui traîne des armes bruyantes dans un lieu pacifique. Cette immense popularité qui ne durera d'ailleurs pas plus longtemps que la guerre et qui diminuera à mesure que les peuples se feront d'autres joies, cette popularité, dis-je, cette vox populi, vox dei, est pour moi une oppression. Je hais cet homme parce que ses tableaux ne sont point de la peinture, mais une masturbation agile et fréquente, une irritation de l'épiderme français.
Baudelaire pouvait être féroce, mais on a été féroce avec Baudelaire. Pour preuve, cet article parut sous un pseudonyme de J. Aban. On n'a jamais su qui était J. Aban. Quoi qu'il en soit, voilà ce qu'il écrit dans le Figaro le 12 juillet 1857. Avec M. Charles Baudelaire, c'est de cauchemars qu'il faut parler. Les fleurs du mal. Qu'il vient de publier sont destinés, suivant lui, à chasser l'ennui qui rêve d'échafaud en fumant son hookah. Mais l'auteur n'a pas pris garde qu'il remplaçait le bâillement par la nausée. Lorsqu'on ferme le livre, après l'avoir lu tout entier comme je viens de le faire, il reste dans l'esprit une grande tristesse et une horrible fatigue. Tout ce qui n'est pas hideux y est incompréhensible. Tout ce que l'on comprend est putricide, suivant la parole de l'auteur. Toutes ces horreurs de charniers étalés à froid, ces abîmes d'immondices fouillés à deux mains et les manches retroussées, devaient moisir dans un tiroir maudit. Mais on croyait au génie de M. Baudelaire, il fallait exposer l'idole longtemps cachée à la vénération des fidèles, et voilà qu'au grand jour, l'aigle s'est transformé en mouche. L'idole est pourrie, et les adorateurs fuient en se bouchant le nez. Il en coûte assez cher de jouer au grand homme à huis clos, et de ne savoir pas à propos brûler ses élucubrations martelées à froid dans la rage de l'impuissance. On arrive à se faire prendre au mot lorsqu'on dit « Moi, mon âme est fêlée » et lorsqu'en ses ennuis, elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits. Il arrive souvent que sa voix affaiblie semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie au bord d'un lac de sang sous un grand tas de morts et qui meurt sans bouger dans d'immenses efforts. Comme c'est vrai tout cela. Et comme je donne raison à M. Baudelaire lorsqu'il se juge ainsi. Allons. Un requiem par là-dessus et qu'on n'en parle plus. Finalement, ne pas savoir qui était ce monsieur Aban n'est pas si grave. Revenons-en à Baudelaire.
Nous sommes ici en plein de la Croix. C'est-à-dire que nous avons devant les yeux l'un des spécimens les plus complets de ce que peut le génie dans la peinture. Il me reste, pour compléter cette analyse, à noter une dernière qualité chez Delacroix, la plus remarquable de toutes et qui fait de lui le vrai peintre du XIXe siècle. C'est cette mélancolie singulière et opiniâtre qui s'exhale de toutes ses œuvres et qui s'exprime et par le choix des sujets et par l'expression des figures et par le geste et par le style de la couleur. Delacroix affectionne Dante et Shakespeare, deux autres grands peintres de la douleur humaine. Il les connaît à fond et il sait les traduire librement. En contemplant la série de ses tableaux, on dirait qu'on assiste à la célébration de quelques mystères douloureux. Dante et Virgile, le massacre de Sceaux, le Sardanapale, le Christ aux Oliviers, le Saint-Sébastien, la Médée, les naufragés, et l'Hamlet si raillé et si peu compris. C'est à cause de cette qualité toute moderne et toute nouvelle que Delacroix est la dernière expression du progrès dans l'art. Héritier de la grande tradition, c'est-à-dire de l'ampleur, de la noblesse, et de la pompe dans la composition, et digne successeur des vieux maîtres, il a de plus que la maîtrise de la douleur, la passion, le geste. C'est vraiment là ce qui fait l'importance de sa grandeur. En effet, supposer que le bagage d'un des vieux illustres se perde, il aura presque toujours son analogue qui pourra l'expliquer et le faire deviner à la pensée de l'historien. Ôté de la croix, la grande chaîne de l'histoire est rompue et s'écroule à terre.
Devant tant d'éloges, Eugène Delacroix réagit sur Baudelaire dans une lettre à George Sand. « Vous avez vu, cher ami, le plus beau de ma peinture, j'entends quant à l'idée, dans l'article de M. Baudelaire, qui a pour moi le mérite d'avoir été fait par un homme que je ne connais pas et que je ne savais pas au monde. Il est pris d'un beau feu pour mon mérite. » Et un peu pour ses propres idées, car je crois qu'il a plus regardé au-dedans de lui-même, en écrivant toutes ces belles choses, qu'il ne les a réellement vues dans ma peinture. Si ce n'était même à propos de moi qu'il a dit tout cela, excusez la modestie, je vous dirais que c'est tant pis pour la peinture qui fait voir tant de choses. Ce qui fait le beau de cette industrie-là consiste surtout dans les choses que la parole n'est pas habile à exprimer. »
Vous travaillez beaucoup, Chagall.
Il faut que je travaille beaucoup, mais il faut travailler beaucoup, mais ça ne dit pas que vous avez un système. Il ne faut pas être pressé. Oui, quand j'ai soi-disant commande, alors je suis très nerveux.
Si un jour on vous disait, vous allez devenir critique, vous allez faire la critique de l'œuvre de Chagall.
Ah non, pas ça, pas ça. Je peux vous critiquer les œuvres des autres. Je crois que Je comprends pas mal, peut-être, c'est pas modeste, mais pas moi. Rien, absolument rien.
Il y a quand même un tableau que vous préférez.
Rien.
George Sand. Elle-même, elle écrit dans une lettre à Delacroix sa propre critique, mais dans un autre domaine cette fois-ci.
J'ai vu hier l'opéra de ce fameux Verdi, ou Merdi, qui fait fureur aujourd'hui. C'est le ressassement de toute la défroque de Rossini, moins les idées. Rien, mais du bruit. On voudra en avoir votre avis. On le discutera devant vous. Il faudra y aller, bon gré, mal gré, mais vous irez sans moi, je vous jure. Je pensais tout le temps à votre pauvre maître Viardot, dont la destinée est inévitablement, si elle veut vivre, de chanter désormais à perpétuité la musique de ces gredins-là. Où est Chopin? Où est Mozart? Où sont les prêtres du Dieu vivant? Où êtes-vous?
Extrait d'un article de Anatole France sur un roman de Georges Honnet intitulé Volonté.
Sacha Guitry.
Le titre du nouveau roman de Monsieur Georges Honnet contient beaucoup de sens en un seul mot. Ce titre est toute une philosophie. Volonté. Voilà qui parle au cœur et à l'esprit. Volonté par Georges Honnet. Comme on sent l'homme de principe qui n'a jamais douté. Volonté par Georges Honnet, 73e édition. Quelle preuve de la puissance de la volonté. Monsieur Georges Honnet a voulu avoir 73 éditions et il les a eues. En vérité, plus je relis ce titre, plus j'y trouve d'intérêt. C'est sans contredit la plus belle page qui soit sortie de la plume de Monsieur Georges Honnet. Volonté par Georges Honnet, 73e édition. Que cela est bien écrit. J'avoue que le reste du livre m'a paru inférieur.
On en revient toujours à Baudelaire. Voici quelques extraits de critiques d'art, celle-ci du salon de 1845.
Le salon, en somme, ressemble à tous les salons précédents, sauf l'arrivée soudaine, inattendue, éclatante de M. William Aussoulier et quelques très belles choses des Delacroix et des Decamps. Du reste, constatons que tout le monde peint de mieux en mieux, ce qui nous paraît désolant. Mais d'invention, d'idées, de tempérament, pas davantage qu'avant. Au vent qui soufflera demain, nul ne tend l'oreille. Et pourtant, l'héroïsme de la vie moderne nous entoure et nous presse. Nos sentiments vrais nous étouffent assez pour que nous les connaissions. Ce ne sont ni les sujets, ni les couleurs qui manquent aux épopées. Celui-là sera le peintre, le vrai peintre, qui saura arracher à la vie actuelle son côté épique et nous faire voir et comprendre, avec de la couleur ou du dessin, combien nous sommes grands et poétiques dans nos cravates et nos bottines vernies. Puissent les vrais chercheurs nous donner l'année prochaine cette joie singulière de célébrer l'avènement du neuf.
Du salon de 1846, il écrit « La vie parisienne est féconde en sujets poétiques et merveilleux. Le merveilleux nous enveloppe et nous abreuve, comme l'atmosphère. » Mais nous ne le voyons pas. Le nu, cette chose si chère aux artistes, cet élément nécessaire de succès, est aussi fréquent et aussi nécessaire que dans la vie ancienne, au lit, au bain, à l'amphithéâtre. Les moyens et les motifs de la peinture sont également abondants et variés, mais il y a un élément nouveau qui est la beauté moderne. Car les héros de l'Iliade ne vont qu'à votre cheville, ô Vautrin, ô Rastignac, ô Birotteau, et vous, ô Fontanarès, qui n'avez pas osé raconter au public vos douleurs sous le frac funèbre et convulsionné que nous endossons tous, et vous, ô Honoré de Balzac, vous le plus héroïque, le plus singulier, le plus romantique et le plus poétique parmi tous les personnages que vous avez tirés de votre sein.
J'irai encore plus loin. N'en déplaise aux sophistes trop fiers qui ont pris leur science dans les livres, et quelque délicate et difficile à exprimer que soit mon idée, je ne désespère pas d'y réussir. Le beau est toujours bizarre. Je ne veux pas dire qu'il soit volontairement, froidement bizarre, car dans ce cas-là, il serait un monstre sorti des rails de la vie. Je dis qu'il contient toujours un peu de bizarrerie naïve, non voulue, inconsciente, et que c'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. C'est son immatriculation, sa caractéristique. renverser la proposition et tâcher de concevoir un beau banal.
Et nous voilà en face d'un tableau qui nous coupe le souffle, à toi comme à moi, parce que c'est un chef-d'œuvre et un chef-d'œuvre incompréhensible. On se demande pourquoi c'est un chef-d'œuvre. Nous sommes en face d'un bocal.
Cocteau et Aragon.
Ce bocal est plein de fœtus de pêche. Et voilà, c'est un chef-d'œuvre, c'est le génie qui échappe à l'analyse. C'est merveilleux.
Oui, c'est un tableau. Un tableau bouleversant. Et on ne sait absolument pas pourquoi il bouleverse. C'est un tableau qui ne ressemble à aucun autre, qui prend une espèce de vie inexplicable. Et ici, nous apprenons brusquement par Monet le triomphe qui va venir, au-delà du paysage impressionniste de la nature morte, triomphante à l'orée du siècle nouveau.
Toujours à propos de la modernité, Cocteau écrit dans Poésie critique « On a inventé le genre moderne, le poète moderne, l'esprit moderne. Dire « je suis moderne » n'a pas plus de sens que la fameuse farce « Nous autres chevaliers du Moyen-Âge ». La confusion vient de ce que l'homme, véritable nègre, est ébloui par le progrès. Téléphone, cinématographe, aéroplane. Il n'en revient pas. Il en parle comme M. Jourdain annonce à tous qu'il s'exprime en prose. C'est ce que le naïf appelle poésie moderne, confondant les mots et l'esprit. Il donne la première place au décor. Ce qui entre chaque jour dans notre décor ne doit être repoussé ni porté au premier plan. Le poète doit s'en servir au même titre que du reste. Celui qui veut à tout prix le modernisme, qui étonne le public par une débauche de couleurs et de surprises sur la vieille étoffe, au lieu de tisser une trame nouvelle, le progrès lui fera perdre sa place. Tout se démode, me dites-vous. C'est une autre affaire. Un chef-d'œuvre n'est pas appelé chef-d'œuvre, mais il transforme tout. Il est mode profonde. Chacun suit sans le savoir. Nécessairement, il se démode. Il est démodé par un autre chef-d'œuvre. À la longue, d'abord, il prend du pittoresque. Ensuite, il cesse d'être vieille robe. Il entre au musée du costume.
Notre âge mérite d'être surnommé l'âge du quiproquo. L'abondance des livres et des moyens de publier en est une des causes. Certes, il n'a jamais existé de chef-d'œuvre inconnu, et ceux qu'on nous déterre sont de faux chefs-d'œuvre. Ce qui doit pousser, pousse, fleurir, fleurit. Mais jamais les jeunes n'eurent tant de facilité pour paraître. Chacun parle, s'exprime, complique le jeu, surcharge Arthur Rimbaud et Stéphane Mallarmé, embaume de vieilles anarchies. La nuit de Rimbaud met en valeur son système d'étoiles. Mallarmé, à force de nuit, de carbone pur, arrive au diamant. Depuis, ce qu'on nomme poésie moderne exploite leur découverte. Il ne reste que charbon, que ténèbres.
On a beaucoup parlé ces derniers temps de poésie pourrie. J'aimerais qu'on m'en cite à une qui ne le fut pas. C'est une décomposition exquise que la poésie, qu'elle soit écrite ou peinte, qu'on la regarde ou qu'on l'écoute, compose ses accords. On pourrait la définir de la sorte. La poésie se forme à la surface du monde comme les irisations à la surface d'un marécage. Que le monde ne s'en plaigne pas, elle résulte de ses profondeurs. Voilà de quoi je parle lorsque j'écrivais « Pourriture divine ». Celle qui, du fond de l'âme humaine, cherche sa réponse dans les moires éclatantes de Dieu. Gréco est un appel, Gréco est une prière, Gréco est un cri, Gréco est un regard du prisonnier vers le soupirail, Gréco est le plongeur qui remonte la perle, et si ses figures en pointe s'inclinent dans le dahlia en pierre de la fraise espagnole vers le cadavre du comte d'Orgaz, elles ne tarderont guère à reprendre la pose et à se redresser comme les tournesols vers le soleil.
Les chefs-d'œuvre de la peinture sont des objets chargés d'un fluide qu'on ne saurait obtenir ni fixer sans amour, et qui prennent à travers les siècles un pouvoir d'hypnose.
Dans les musées, nous sollicitent surtout les œuvres maniaques. Je nomme œuvres maniaques celles où les ingrédients d'immortalité semblent moins provenir d'un choix que d'une contrainte. Le signe cesse alors d'être n'importe quel appel éperdu, quel geste excentrique, et devient un des indices de l'énigme où la vie du peintre se cache à l'abri de l'art. Et enfin, pour conclure, un dernier mot de Cocteau qui pourrait peut-être servir comme maxime pour le critique.
Mon expertise est faite au stéthoscope. J'ausculte ma poitrine et celle de la toile. Si mon cœur bat plus vite, il y a bien des chances pour que j'entende la toile produire un semblable battement.
Ça peut pas faire de mal.
En partenariat avec le magazine littéraire, cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Merci à Jean-François Néolier, à la technique, à Estelle Gap et à Laura Elmaki pour la préparation de cette émission. Merci beaucoup Catherine Fraud.
Merci à vous.
Pour une autre émission consacrée à la critique qui cette fois-ci va nous faire traverser le XXe siècle et nous faire découvrir la critique de cinéma.
J'ai vu ça en Angleterre et le slogan publicitaire était « James Bond does it everywhere ». Ce qui veut dire « James Bond fait ça partout ». Alors le hit évidemment, tout est là.
Tout est là, oui.
Qu'est-ce que c'est ? Au bout de 5 minutes, on a compris qu'il s'agissait à la fois de la coucherie et de la bagarre. Et en effet, il does it everywhere, puisque là, c'est sous la mer.